Vous écoutez RTL.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir. D'ores et déjà, veuillez noter que nous allons diffuser à 18h35 un témoignage tout à fait exceptionnel, celui de Sandra Forgues. Vous ne la connaissez pas, et pourtant, en 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, Sandra se prénommait Wilfried. Avec Frank Addison, il a gagné l'or en canoë biplace. 20 ans plus tard, il a cédé à sa vraie nature, il est devenu une femme. Sandra nous racontera ce cheminement extraordinaire dans une grosse demi-heure sur RTL. Mais tout de suite, la première édition du journal avec Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Et d'abord cette information RTL, la petite Maëlys a eu la mâchoire fracturée, c'est ce que révèlent les premiers éléments de l'autopsie. Précision dans un instant. La réforme de la justice, les criminels ne finiront plus forcément aux assises. La ministre annonce l'expérimentation d'un tribunal criminel pour les faits passibles de 15 à 20 ans de prison. Emmanuel Macron en Inde, la France rêve de contrats mirobolants dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. À suivre également un nouveau couac à l'hôpital de la Timone à Marseille. De jeunes parents ont dû porter eux-mêmes leur nouveau-né décédé dans les couloirs de l'hôpital. Une journée morte à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. Le constructeur jette l'éponge et cherche un repreneur. Et puis, le concert des Enfoirés ce soir sur TF1 et RTL. Une trêve dans la guéguerre entre la première chaîne et les opérateurs. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,39% à 5274 points. Les courses à Chantilly, il fallait jouer l'As, le 7, le 5, le 13 et le 14.
À la fin du journal, la question de l'actualité, la guerre des tarifs douaniers entre les États-Unis et le reste du monde. Les contre-mesures peuvent-elles être efficaces? Ce sera juste avant un autre invité de RTL Soir, le grand avocat Hervé Temim, qui nous donnera son sentiment sur les derniers rebondissements de la réforme de la justice dont Isabelle Choquet vient de vous parler. Juste avant 18h30, les coulisses d'un monde mystérieux, celui des tatoueurs, le mondial du tatouage, c'est jusqu'à dimanche à Paris. Dans la deuxième demi-heure, Olivier Mazerolle, très impressionné par les capacités de Kim Jong-un, qui est tout de même parvenu à faire s'asseoir à sa table le président Trump. 18h50, RTL Monde, bien sûr, et de 19h15 à 20h, eh bien, je vais refaire le monde avec les polémistes. Il y a aussi, dans RTL Monde, Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Pour demain, de la douceur, presque pour tout le monde, et pas beaucoup de soleil.
Non, très très peu. On a deux systèmes, en fait, qui circulent sur le pays ce soir. Le premier sur les régions les plus au nord, qu'on va retrouver demain dans le nord-est. Un autre qui remonte d'Espagne et qui va concerner le sud-est demain dans la journée. Donc entre les deux, on va avoir une alternance de gros nuages, de toutes petites éclaircies et de grains orageux assez fréquents. Notez qu'il y aura du vent en Méditerranée, des chutes de neige à assez haute altitude en montagne parce que le redoux est là. 7 degrés à Colmar au réveil, 9 à Ajaccio, 10 à Paris, déjà 15 à Biarritz demain matin dans l'après-midi. Comptez 13 à Dunkerque, 15 degrés sur Montpellier, 16 dans la capitale, 17 degrés demain à Poitiers et à Lyon et 22 degrés à Albi.
Merci beaucoup.
RTL Soir.
Nous commençons donc avec cette information RTL, les premiers éléments de résultats de l'autopsie de la petite Maëlys.
Au lendemain d'une conférence de presse des parents qui dénoncent le silence du meurtrier présumé Nordal Lelandais, le voile se lève sur les causes de la mort. Bonsoir Frédéric Perruche.
Bonsoir.
Selon vos informations, la petite fille de 8 ans disparue à la fin de l'été a eu la mâchoire fracturée.
Exactement, c'est le premier retour de l'expertise menée par les médecins légistes et les scientifiques de la gendarmerie. Ils savent désormais que la fillette a eu la mâchoire fracturée, a-t-elle été victime d'un coup très violent, c'est probable. Mais cet indice n'est pas encore suffisant à ce stade pour le prouver. Cet élément peut être retourné par la défense de Lelandais qui parle, lui, d'accident. Il peut également évoquer la chute dans le ravin quand il a abandonné le corps sur les hauteurs d'Attigna. Les enquêteurs attendent donc d'autres éléments pour étayer cette thèse de coup volontaire. Ils cherchent des traces, des indices sur les vêtements de l'enfant. Il y avait des taches noirâtres sur les restes de la robe blanche de Maëlys, du sang. Peut-être. Autre retour d'expertise très attendu, celle des sous-vêtements de la fillette. Les experts analysent fibre par fibre, minutieusement la brassière et la culotte retrouvées en boule près du corps, ce qui intrigue les gendarmes. Mais les analyses prennent beaucoup de temps. Cette pièce essentielle à leurs yeux a passé 6 mois dans la nature. Le froid, la neige, la boue l'ont fortement dégradée. Les enquêteurs espèrent avoir d'autres éléments dans les jours qui viennent avant l'audition de Nordal Lelandais, prévue lundi 19 mars devant le juge d'instruction.
Merci Frédéric Perruche.
Du bureau RTL de Lyon. Arrêtons-nous maintenant sur la réforme de la justice. Tous les crimes ne seront plus jugés aux assises.
Annonce surprise de la garde des Sceaux Nicole Belloubet en déplacement aujourd'hui à Reims aux côtés d'Édouard Philippe. Une réforme de plus, mais pourquoi faire? Réponse du Premier ministre.
Nous voulons simplifier la vie du justiciable. mais c'est aussi préserver l'intégralité des sites existants, des sites géographiques existants, et permettre à chacun, et en particulier à ceux qui ont besoin d'écoute et de conseils, de saisir la justice de n'importe quel litige dans tous les lieux de justice, à proximité de chez lui, et sans qu'on le renvoie d'un greffe à un autre.
Édouard Philippe au micro RTL de Morad Djabari. Une loi sera présentée en Conseil des ministres le 11 avril, mais les grandes lignes en ont donc été dévoilées aujourd'hui. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
La mesure phare est plutôt inattendue, les criminels ne finiront plus forcément aux assises.
Absolument, Nicole Belloubet annonce la création de tribunaux criminels dans chaque département qui remplaceront les cours d'assises. Ils jugeront les crimes passibles de 15 ou 20 ans maximum de réclusion. Le seuil exact reste en discussion. Cela concerne les viols notamment, mais aussi les vols à main armée et les coups mortels. Les auteurs de meurtres et d'assassinats continueront, eux, à passer devant les jurés d'assises. Pourquoi cette réforme ? Eh bien, principalement en raison de l'engorgement des cours d'assises. L'instruction est très longue, l'organisation des audiences fastidieuse la prend souvent des années. La garde des Sceaux veut donc les réserver aux crimes les plus graves. Bénéfice pour les justiciables concernés, ils seront jugés plus vite. En revanche, ils ne pourront plus tabler sur un acquittement obtenu aux assises, grâce notamment au talent d'un avocat qui aurait instillé le doute dans l'esprit des jurés.
Merci. Et puis, c'est un serpent de mer. La carte judiciaire va être revue et corrigée. Les tribunaux d'instance sont appelés à disparaître.
En effet, les tribunaux d'instance, rappelons-le, traitent des petites affaires civiles, comme les querelles de voisinage ou les litiges inférieurs à 10 000 euros. Dans les grandes villes, là où il existe un tribunal de grande instance, ils devraient fusionner avec leurs grands frères et certains juges seraient mutualisés. C'est en tout cas la crainte des syndicats de magistrats. Alors, le Premier ministre réaffirme qu'aucune fermeture n'est programmée, vous venez de l'entendre, et les tribunaux d'instance isolés resteront ouverts. Mais cette réforme du réseau judiciaire et l'évolution managériale prônée par Nicole Belloubet, ce sont ces mots, inquiètent les professionnels. Ils attendent, au-delà des déclarations, le contenu exact du projet de loi qui sera présenté le 11 avril en Conseil des ministres.
Que pense de ce projet l'avocat Hervé Temim ? Eh bien, il nous le dira dans 10 grosses minutes maintenant.
Salah Abdeslam parle pour la première fois. Le seul membre encore en vie du commando djihadiste du 13 novembre s'est exprimé devant le juge français chargé de l'enquête. Il a dédouané l'un des suspects soupçonnés de l'avoir aidé dans sa cavale.
Nous partons maintenant en Inde, où Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours.
Le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec 1 milliard 250 millions d'habitants. Ce marché gigantesque en fait fantasmer plus d'un, d'autant que pour l'instant, les échanges entre l'Inde et la France sont assez limités. Tout reste à faire donc. Vincent Derosier, vous suivez cette visite pour RTL. Emmanuel Macron voyage accompagné d'une vaste délégation de chefs d'entreprise et de start-up.
Oui, François Hollande avait vendu 36 Rafales en 2015. Eh bien, Emmanuel Macron espère faire aussi bien, voire mieux, mais c'est loin d'être gagné. D'ailleurs, dans la presse indienne, le chef de l'État reconnaît dans un langage très diplomatique que les signatures d'accords entre les deux pays prennent beaucoup trop de temps. Plusieurs contrats militaires notamment traînent en longueur. Alors le président mise sur ses bonnes relations avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour faire avancer certains dossiers. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est également sur place. Mais la France espère surtout décrocher des contrats dans le domaine du nucléaire civil. EDF pense pouvoir notamment conclure la vente de 6 réacteurs EPR dans l'ouest du pays. La SNCF tente, elle, d'arracher des marchés pour des lignes de chemin de fer à travers tout le pays. Suez est déjà bien implanté ici, notamment dans la dépollution de l'eau. D'ailleurs, le président Macron mouillera lui-même la chemise puisqu'il inaugurera lundi une centrale solaire construite par une filiale d'Engie.
Vincent Derosier, envoyé spécial d'RTL en Inde. Emmanuel Macron est accompagné dans ce voyage de son épouse Brigitte. Et l'image glamour de ce voyage, eh bien, ce sera leur visite du Taj Mahal dimanche.
On s'arrête un petit instant dans le journal d'Isabelle Choquet. Et ensuite, on parle de l'hôpital de la Timone à Marseille, de nouveau montré du doigt. Et ce, après la mort d'un nouveau-né. Les parents se sont retrouvés totalement livrés à eux-mêmes.
18h10, RTL Soir avec Bernard Poirette et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
On en vient donc à ce nouveau dysfonctionnement, entre guillemets, consternant à l'hôpital de la Timone à Marseille.
De jeunes parents originaires de Pertuis dans le Vaucluse racontent avoir été complètement abandonnés après le décès de leur bébé de 3 jours. Ils ont été obligés de traverser les couloirs de l'hôpital avec le petit corps de l'enfant dans les bras. Tout cela pour trouver le dépositoire fermé. Hugo Hamelin, vous avez rencontré Marine, la maman. Ces faits remontent à septembre, mais elle se décide à parler maintenant pour que personne d'autre n'ait à vivre un tel calvaire.
Oui, et c'est le journal La Provence qui a révélé cette affaire, une expérience traumatisante forcément pour cette maman.
On a traversé tout l'hôpital avec mon bébé décédé dans les bras et les gens dans le hall qui passaient à côté de nous.
Déboussolée, cette maman, accompagnée d'une simple brancardière, va marcher pendant près d'un kilomètre pour rejoindre la chambre mortuaire, conséquence d'un manque criant de matériel hospitalier.
Le couffin qui n'est pas disponible dans un service réanimation où je pense des enfants décèdent malheureusement assez souvent parce que c'est un service qui est à haut risque. Pas d'ambulance non plus, donc nous faire le chemin à pied, gérer notre peine. Et puis le dépositoire qui est fermé un vendredi soir après 17h. C'est juste, c'est inhumain et pas de suivi psychologique pour nous.
Après cette improvisation dramatique, l'hôpital a promis du changement.
Nous, le directeur nous a reçus de l'hôpital, parce que j'ai fait un courrier, il nous a reçus, il s'est excusé, on n'aurait pas dû vivre ça. En fait, il n'y a rien qui a été mis en place. Si nous, on ne réagit pas, personne ne va réagir, personne ne va savoir ce qui se passe dans cet hôpital, et ça va continuer. Donc non, le personnel de la Timone est très compétent, mais je pense qu'il y a un souci majeur au niveau de ce dépositoire.
L'assistance publique des hôpitaux de Marseille indique ce soir qu'elle va mettre en place une salle de recueillement au sein même du service de réanimation pour éviter que cela se reproduise.
Hugo Hamelin en direct de Marseille pour RTL. Le Lévothyrox boudé par les malades de la thyroïde. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 1,5 million de patients ont abandonné le médicament suite au changement de formule et aux effets secondaires associés.
C'était journée morte aujourd'hui à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde.
Le groupe automobile américain a fait savoir qu'il n'investirait plus rien sur le site qui emploie quelques 910 salariés. Ford ne voit aucune opportunité de production au-delà de 2019. Il cherche un repreneur. Aujourd'hui, 1 million de personnes ont manifesté à Bordeaux contre ce retrait total. Écoutez la colère de Jean-Marc Chavant, il est délégué force ouvrière sur le site.
En clair, ils disent qu'ils ne veulent plus investir et qu'une des solutions sera peut-être un repreneur. Si l'objectif c'est de faire grève pour se faire plaisir, d'avoir rien au bout, je me vois mal et dire à mes collègues qui aujourd'hui ont perdu une journée de travail, c'est ça que je te propose. Par contre, effectivement, des actions vont forcément être menées. À court terme, puisque nous avons jeudi prochain un représentant Ford Europe qui sera là pour nous expliquer comment on va faire pour tenir jusqu'à au moins fin 2018, voire plus loin. On aura certainement là une occasion encore de montrer notre mécontentement.
Le délégué force ouvrière de l'usine Ford de Blanquefort avec Jean-Marc Terrier pour RTL. Qui l'eût cru, contre toute attente, M. Trump et M. Kim Jong-un vont se voir d'ici la fin du mois de mai pour tenter de mettre fin à la surenchère nucléaire.
Annonce surprise du président américain qui a pris de court même ses proches conseillers, mais c'est plutôt une bonne surprise. L'Union européenne parle d'un développement positif et la Chine presse le mouvement. Cette rencontre sera, quoi qu'il arrive, historique. Mais que peut-on en attendre précisément? Réponse avec Jean-Vincent Brisset, il est chercheur à l'Institut de Recherche Stratégique.
Je pense que la Corée du Nord peut décréter une sorte de moratoire en disant on ne fait plus d'expérimentation, on dispose d'un armement nucléaire mais on ne le développera plus, on ne fera plus d'expérimentation. Et puis d'un autre côté, les États-Unis peuvent se satisfaire de ça, ce qui est un petit peu honteux et un petit peu abdiqué. Les États-Unis sont capables aussi de faire en sorte que la Corée du Nord s'enrichisse et qu'elle ait envie de faire autre chose que de développer des armements pour faire peur et faire du chantage.
Jean-Vincent Brisset, c'est de l'Iris, joint pour RTL par Pierre Julien. Et on termine en musique, puisque ce soir, TF1 et RTL diffusent le concert des Enfoirés. C'est traditionnellement la meilleure audience de l'année pour la première chaîne. Et pour la bonne cause, Canal+ a rétabli la diffusion. Soirée spéciale sur RTL à partir de 20h en ouverture. Voilà ce que vous entendrez.
Le concert des Enfoirés donc ce soir sur RTL et TF1 à partir de 20h. C'est bien ça Isabelle Choquet ?
C'est bien cela et on le redit, un CD ou un DVD acheté, ce sont 17 repas distribués. Alors, on compte sur vous, c'est ça qu'on dit dans ces cas-là.
Bien évidemment. Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres sans faute.
RTL soir, 18h15.
Voici la question qui éclaire l'actualité. Christophe Decroix, bonsoir.
Bonsoir.
La guerre des tarifs douaniers a donc été relancée par le président américain Trump, qui surtaxe les importations d'acier et d'aluminium. À cela, l'Union européenne réplique en menaçant de surtaxer le jus d'orange, le bourbon et les Harley Davidson. Ouais, vu comme ça, ça me semble faire deux poids deux mesures, non ?
Non. Certes, les produits ne sont pas les mêmes, mais la menace financière des Européens est d'un montant équivalent. Les taxations de Donald Trump portent sur un volume d'échange de 2,8 milliards d'euros. L'Union européenne se dit donc prête à répliquer en taxant des produits américains pour le même montant. Un tiers de taxes supplémentaires sur des produits sidérurgiques, un tiers sur des produits industriels comme justement les jeans ou les Harley Davidson, et un tiers sur des produits agricoles comme le beurre de cacahuète ou le jus d'orange. Si vous faites un rapide calcul, ça fait dans l'absolu un peu plus d'1,5 milliard de taxations supplémentaires. C'est considérable. En revanche, difficile de calculer les conséquences sur l'emploi de part et d'autre de l'Atlantique.
Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même un risque d'escalade évident ?
Oui, si, évidemment. Si on taxe le bourbon américain, eh bien, il pourrait y avoir des représailles, par exemple, sur le whisky irlandais. Mais l'Union européenne se veut solidaire et unie. Et si elle se dit prête au œil pour œil, dent pour dent, c'est justement pour ne pas en arriver là. L'espoir, c'est que Trump renonce à ses mesures ou en exonère l'Europe. On peut aussi porter l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, mais la procédure est longue et surtout les États-Unis ont les moyens de bloquer cet arbitre du commerce international. On mise donc sur la dissuasion.
Éclairage signé Christophe Decroix du service étranger de RTL. Merci Christophe. La suite de RTL Soir, dans un instant avec notre premier invité, l'avocat Hervé Temim. Que pense-t-il des annonces du jour en matière de réforme de la justice et notamment du fait que tous les crimes, désormais, pourraient ne plus être jugés à la cour d'assises.
Il est 18h17, RTL Soir.